Dans ce sixième entretien, nous allons essayer de repérer ce qu'est la contemplation. La contemplation. Et pour cela, d'abord, bien la distinguer de la méditation que désormais nous connaissons. Alors, qu'est-ce que la contemplation ? Faisons un petit détour. Supposons que vous ayez consciencieusement appliqué ce que nous disions dans les cinq premiers entretiens. Avec un peu de méthode, vous prenez votre évangile, à un moment où vous avez décidé de faire oraison, vous lisez, vous réfléchissez, etc. Eh bien, pour bon nombre de fidèles, ça ne marchera pas. Et cette méthode inquiétera, mais au fond, empêchera de continuer l'oraison plus que elle n'aidera. Oui, à peine chercherez-vous dans cette situation à lire une page d'évangile et pfit, votre esprit s'envolera. Les bonnes résolutions, vous n'arriverez même pas à en prendre, parce que de toute façon vous êtes acquis à l'idée que faire la volonté de Dieu est la seule qui compte dans votre vie. Mais au-delà, vous voyez un pauvre pécheur, et si vous devez rendre compte de votre raison, vous direz: bon, moi, je n'ai que des distractions et je m'y ennuie. Et pourtant, j'y suis fidèle. Ça, c'est très important. Mais apparemment, il ne se passe rien. Le bon Dieu est ailleurs. Alors, en même temps, une chose significative est que vous voudriez réussir votre raison. Oui, vous voudriez. Et il y a une sorte d'évidence que le bon Dieu est là, mais enfin, il se tourne de l'autre côté. Donc, il n'est pas exactement ailleurs. Mais bref, nous n'en profitons pas du tout. Si nous pouvions faire quoi que ce soit pour que le bon Dieu se fasse un peu sentir, là nous serions vraiment ravis. Bon, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs se retrouveront dans ce que je viens de décrire. Auquel cas, il y a fort à parier que ce que je vais lire maintenant chez Sainte Thérèse d'Avila va les éclairer. Nous sommes dans ce merveilleux petit traité de vie intérieure, et qui s'appelle « Le chemin de la perfection ». Et Thérèse d'Avila est en train de commenter le « Notre Père ». Oui, car le « Notre Père », au fond, résume toute prière chrétienne. Et elle en est au moment où elle explique « Que ton règne vienne ». Eh bien, dans la situation que je viens de décrire, elle va nous dire « C'est que le royaume de Dieu est arrivé ». Mais comme nous dit encore l'Évangile, il ne fait pas de bruit, si bien qu'on a tendance à penser qu'il n'est pas là. Alors, que nous dit exactement Thérèse ? Il y a des moments où, fatigués de la route, le Seigneur nous met dans le repos des puissances et la quiétude de l'âme. Fatigués de la route, c'est-à-dire, oui, nous méditons depuis des mois, peut-être des années, et au fond, oui, nous en sommes fatigués. Repos des puissances. Les puissances, il s'agit de ce qui en nous rend capable de vouloir, de comprendre, de savoir, ce qu'on appelle la mémoire, l'entendement, la volonté. Le bon Dieu met tout cela en repos, et à ce moment-là, nous sommes en contemplation. Comment ? C'est aussi simple que ça, mais oui. Alors Thérèse continue joliment, parce que ce mot de contemplation nous fait peur à tous. Si vous n'alliez pas dire que je parle de contemplation, cette demande du Pater, que ton règne vienne, me donnerait ici une belle occasion de vous parler un peu des commencements de la pure contemplation, appelée par ceux qui en ont l'expérience oraison de quiétude. Quiétude, le mot peut nous déconcerter, il indique, ce repos profond de l'âme, non pas le vide, hein, c'est tout à fait différent, mais le repos. Alors comment ça se passe? Je continue la description de Thérèse d'Avila. Cette oraison de quiétude est quelque chose de surnaturel, et quels que soient nos efforts, nous ne pouvons l'obtenir par nous-mêmes. Car l'âme s'y établit dans la paix, ou plutôt le Seigneur l'y met dans la paix par sa présence. C'est comme un apaisement intérieur et extérieur. Les personnes qui sont dans cet état voudraient que le corps ne bougeât pas afin de ne pas perdre cette paix, si bien qu'ils n'osent remuer. Parler leur est pénible. Elles vont passer une heure à dire un seul Notre Père. Bon. Je reprends ce que nous dit Thérèse. Si vous n'alliez pas dire que je parle de contemplation, oui, ce mot, je l'ai dit, fait peur à tout le monde. Nous croyons que la contemplation est réservée aux moines, mais non, elle est d'abord ce repos, cette quiétude, j'allais dire cette détente qui viennent d'ailleurs et qui, en quelque sorte, coupe la parole à notre prière. Dans cet état, parler leur est pénible, vient de nous dire Thérèse. Alors, on ne peut pas parler, on ne peut pas non plus, on a envie de parler quand même parce qu'on a appris que c'est comme ça qu'il fallait faire oraison, on parle au bon Dieu, bon. Et nous voilà plongés dans le désarroi et nous avons l'impression de ne plus prier. Or, ce n'est qu'une impression. Comment le savez-vous, allez-vous me demander? Ben parce que vous en avez envie, tout simplement. Et vouloir aimer, mais c'est aimer. C'est pas que le bon Dieu est parti, c'est qu'il est devenu, j'allais dire, transparent. Mais Dieu, nul ne l'a jamais vu, au fond, c'est très normal. Quelqu'un est là, et nous le savons, parce que nous avons tellement envie de lui. Et finalement, tout le reste nous dérange. En fait, nous sommes dans un nouvel équilibre, mais nous ne nous en sommes pas aperçus. Ah, ce serait trop beau pour être vrai. Voilà ce que bien souvent, on va dire à celui qui explique ce que je suis en train d'expliquer. Et vous doutez peut-être qu'une chose aussi simple puisse vous arriver, aussi simple et aussi merveilleuse, parce que si vous êtes dans cet état que je vous dis, si le bon Dieu, ça lui va comme ça, est-ce que vous êtes content? Oh oui, si ça pouvait être vrai. Mais voilà, vous ne pensez pas que cela puisse être vrai. Alors, posez-vous tout simplement cette question. Si c'était vraiment vrai ce que je viens de vous dire, que Dieu est là, en silence, content d'être avec vous, sans rien dire, mais si c'était vrai, est-ce que ce ne serait pas le plus grand bonheur qui puisse vous arriver? Ah oui, 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 vous allez dire oui. Eh bien, si vous dites oui, n'en doutez plus, vous n'êtes pas dans l'illusion, vous êtes dans la contemplation. Alors, vous devinez aussi que, à partir d'ici, votre oraison va prendre des chemins tout différents de ce que nous disions à propos de la mise en méditation, affection, etc. Parce que tout ça, en fait, ça se fait automatiquement. Et il va falloir désormais vous habituer à ne pas troubler ce repos plein de Dieu, à ne pas vous inquiéter de cette transparence de Dieu, bref, à apprendre la fidélité silencieuse et accepter que beaucoup de choses entrent en silence en nous et nous verrons que ce n'est pas moins exigeant que la première forme d'oraison, la forme méditative. Mais avant d'apprendre dans nos prochains entretiens comment nous comporter dans la contemplation, il y a une question qu'il faut quand même résoudre. Je viens de dire, le bon Dieu est transparent. Alors comment savoir s'il est là? Comment savoir si ce désarroi dans lequel je ne peux plus méditer n'est pas dû au vide plutôt que à cette plénitude de la présence de Dieu? Comment savoir? Ben, je dirais d'autant que plus le temps passera, plus les distractions, plus la difficulté grandira dans notre vie spirituelle. Et le tout sera de ne pas nous en inquiéter. Mais encore faut-il être sûr que c'est bien Dieu qui est là au moment où nous n'arrivons plus à être là. Alors comment savoir? Je vais le demander à un grand maître du XVIIe siècle français, le jésuite Jean Rigoleux, à un moment de grande vitalité spirituelle en France. Et Rigoleux était formateur de ses frères jésuites, notamment dans la ville de Rouen, au début du XVIIe siècle. Alors Rigoleux nous dit « Je veux vous apprendre les marques par lesquelles vous pourrez reconnaître si vous êtes dans la vraie oraison de silence, autre nom pour l'oraison de quiétude ou oraison contemplative. Alors, quelles sont ces marques? Premièrement, nous dit Jean Rigoleux, si, après avoir préparé le sujet de votre oraison comme d'habitude, vous ne pouvez pas vous en servir. Alors, ce premier signe d'une authentique contemplation est purement négatif. On voudrait méditer, on essaye, on n'y arrive pas. Bon. Alors, jusqu'ici, ça n'aide pas à déterminer grand-chose. Il nous faut un deuxième et un troisième signe. Alors, le deuxième, si dans ce recueillement, vous apprenez à obéir à Dieu promptement et aveuglément, à ne dépendre que de la providence et à ne vouloir que la volonté de Dieu. Bref, si votre vie chrétienne est par ailleurs en progrès, vous n'arrivez pas à penser au bon Dieu, mais plus que jamais, vous voulez faire sa volonté. Bref, vous êtes en plein dans ces affections dont nous a parlé saint François de Sales. Autrement dit, vous n'avez plus besoin de penser à lui pour l'aimer. Mais je dirais, quand on partage la vie de quelqu'un, c'est comme ça. Mais simplement, ça nous étonne dans les débuts, parce que, ne pensant pas à lui, on oublie que Dieu n'est pas une idée et on risque de croire que c'est qu'il est absent. Donc, est-ce que, au même moment, votre volonté chrétienne est en croissance? Et puis, un troisième signe, je dirais par contraste du deuxième, est-ce que ce repos, cette quiétude, vous détache de toutes les créatures pour vous unir à votre Créateur? Et vous ôte le goût de toutes les choses de la terre, de tout ce qui n'est pas Dieu. Voilà, je termine cette citation de Rigoleux. Au moment où, plus que jamais, nous voulons faire la volonté de Dieu, moins que jamais, nous n'aimons, nous n'avons de goût pour autre chose que la volonté de Dieu. Toujours ce nouvel équilibre de l'âme, mais comme il se fait, je dirais, secrètement, comme Dieu arrive par le point le plus profond, le plus central et dès lors le plus inconscient de notre vie mentale, on risque de prendre cette présence de Dieu pour une absence. Alors, est-ce que vous êtes de plus en plus équilibré par Dieu et de moins en moins équilibré par le reste? Oui. Alors, n'en doutez pas, conclut Rigoleux, si vous reconnaissez en vous ces marques, ne doutez nullement que vous ne soyez appelé par Dieu à cette oraison de silence, et tenez-vous-y dans la plus grande simplicité que vous pourrez. Voilà. Alors, cette grande simplicité sera l'objet des entretiens suivants, parce que, oui, désormais, nous ne pouvons plus, j'allais dire, naviguer à vue dans la vie spirituelle, c'est-à-dire en sentant ce qui se passe, mais aux instruments, c'est-à-dire dans la foi et dans la vérification de la foi que l'Église peut nous aider à faire.